Papienne, Papapien et tous les autres aussi, bonjour.
Non, ne vous étonnez pas, mes amis, c'est bien moi qui vous parle dans mon émission en direct de la Maison Ronde. Et nous sommes peut-être là en présence d'un cas intéressant de vortex. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité, Jacques Auberger, et sa moitié, Alice de son prénom, qui n'est pas littéralement sa moitié, moitié étant le nom de famille d'Alice, photographe et réalisatrice du dernier clip de Jacques Auberger, plus connu sous le nom de Jacques, que l'on écrit parfois sans S au bout, ce qui ne change pas grand-chose à la prononciation. C'est un drôle de zigoto que ce Jacques, longtemps résumé à, je cite, un type à la coupe chelou qui fait des trucs bizarres, des bruits bizarres. Bon, c'est vrai qu'il a une coupe chelou, rasée centralement du front à la nuque, comme pour permettre à des oiseaux migrateurs de se poser et de reprendre un peu de force, et qu'il fait des bruits bizarres. Mais évidemment, cette image, comme toutes les images, est totalement réductrice, comme nous allons le prouver dans cette édition de Pop Pop Pop. Jacques est donc notre invité aujourd'hui, et Pop Pop Pop, c'est parti.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Gaulle.
Quoi ?
Elle a fait la cover.
Elle a fait la cover. Mais oui.
Ouais, elle a fait la cover.
Oui. Alice Moitié, elle a fait la cover. Elle a fait la couverture.
Oui, carrément.
Mais je le sais bien, ça, Jacques. Non, enfin, bonjour, Jacques.
Bonjour.
Il essayait de me faire des confidences comme ça, en croyant qu'on n'était pas encore à l'antenne.
Non, parce que tu as dit le clip. Tu as dit qu'elle avait fait le clip.
Ah non, non, pardon.
Alors, j'ai rectifié.
Autant pour moi, je me flagelle. Non, elle a fait la couverture, évidemment, de l'album. Cette magnifique couverture avec ses longs cheveux. Louis XIV, ça se faisait même plus Louis XIV, parce qu'on ne sait pas où il s'arrête ses cheveux. Alors d'abord, on dit Jacques avec un S ou sans S ? Qu'est-ce que ça change ?
Avec un S, je suis pluriel.
Oui.
On est plein là-dedans, je crois.
Vous êtes plein là-dedans, ça j'ai cru de remarquer. Non, mais je l'ai vu aussi orthographié sans S.
Ah ouais ?
C'est une pure coquetterie ?
Ah non, j'ai jamais fait ça, moi. Bon, je respecte le choix de mes parents.
Très bien. Alors gardons le S. Quand je vous vois, mon cher Jacques, je pense boucle, bien sûr, grâce au fameux vortex autour duquel nous nous sommes rencontrés une première fois, mais aussi parce qu'il y a de la boucle partout chez vous. À commencer donc par la pochette de ce nouvel album, mais boucle aussi musicale. Il y a des boucles de cheveux, ça c'était le point Jean Provost, hein, qui risque d'ailleurs d'être bouclé à son tour un de ces jours. Et puis, ces fameuses boucles musicales. Votre vie est une histoire de boucles ?
La mienne, seulement la mienne. Je pense que
toutes les vies.
Mmh. La vie est une histoire de boucles, de cycles, de répétitions, d'incrémentations.
D'incrémentation.
Ouais, c'est un mot compliqué qui veut dire qu'à chaque fois, à chaque boucle, on rajoute un petit peu.
D'accord.
Il me semble. Hein.
Oui, oui, oui. Ouais. Bon, on va revenir sur l'incrémentation dans quelques instants. Le fait que l'on se revoit alors que l'on s'est déjà vu, est-ce que ça pourrait s'apparenter, par exemple, hein, de ces
vortex ?
Ouais,
à une boucle. Ouais, ouais.
À une boucle.
Peut-être qu'on se reverra même dans quelques temps, je ne sais pas.
Et donc, ce sera une double boucle. Une
triple boucle.
Voilà. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, Jacques, vous répondez que vous ne savez pas trop. En tous les cas, vous avez du mal à dire, à le dire avec des mots.
Ouais, à expliquer ce que je fais, bah c'est vrai que j'aime pas l'idée de dire je suis un artiste, parce que ça suggère qu'il y a des gens qui ne sont pas artistes, ce qui est faux. En fait, tout le monde est plus ou moins artiste.
Oui, mais il y a des artistes qui produisent et d'autres qui produisent moins.
C'est ça, mais c'est vrai que si on en reste à ça, je pense que parfois les mots sont un peu grossiers. J'ai un peu l'impression comme si j'avais une pensée subtile et que quand il s'agit de la faire descendre dans le monde des mots, j'ai l'impression d'insulter mes pensées.
D'accord. Ça veut dire qu'en fait, vous avez peur des mots parce que vous trouvez qu'ils sont réducteurs souvent ?
Souvent, ouais. Souvent, surtout pour décrire tout ce qui est émotionnel.
Bien, on va essayer de les incrémenter pendant l'heure qui vient, tous ces mots. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'importance du vide. C'est votre nouvel album, le quatrième, qui vient de sortir. On va en parler. Et donc un petit peu plus tard avec nous dans cette émission, Alice Moitié, qui a réalisé la pochette de cet album, et Charline Roux, qui refuse de faire la pochette du mien. Enfin bref, en attendant, Jacques, quand je vous vois, j'ai envie d'écouter du Jacques, et je vous propose un extrait de ce nouvel album. Ça se voit, ça se voit. C'est le titre, et donc ça s'écoute aussi.
Les jours passent. J'aimerais bien que ça s'arrête. J'ai besoin de faire la fête. J'ai trop d'onglets dans la tête.
Tu y ça se voit.
Jacques, ça se voit dans Pop Pop Pop. C'est un nouveau morceau du nouvel album de notre nouvel invité, Jacques. Ça se voit dont vous dites que c'est un échantillon à base de complaintes angéliques, de drops intrusifs et de tutoiements omnidirectionnels. Mais depuis quand tutoyez-vous l'omnidirectionnel, Jacques?
C'est parce que ça concerne tout le monde. Mm-hmm. Ça concerne chacun.
Tous les artistes.
Ouais. Mm-hmm. Tous les artistes qui existent. Oui. Mm-hmm. C'est bien, tu suis ce que je dis.
Oui, je suis évidemment que je suis là pour suivre.
Et plein de gens sont des artistes au fond, mais n'osent pas l'assumer, et ça se voit.
Et ça se voit, d'où la chanson. D'accord. Alors, Jacques, parlons pop, parlons bien et parlons de vous. Si vous faites de la musique, mon cher Jacques, c'est grâce à un autre Jacques.
J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Jacques Chirac, évidemment. Jacques Chirac. La légende raconte que votre père vous a fait croire que le président Chirac avait lancé à l'époque une loi obligeant les enfants à essayer un instrument de musique. Et vous, c'était donc le piano et la guitare. Ça veut dire que sans Jacques, il n'y a pas de Jacques.
Mais où t'es allé trouver ça?
Ah, mais partout. Mais je fais mes recherches.
Le gars a des indices partout.
Je prépare mes émissions.
C'est bien.
Mais alors, info ou intox?
Bah, c'est vrai, ça me dit totalement quelque chose. Ouais. Mm-hmm. C'est à une époque, c'était à la même époque. Ouais, ouais, c'est ça. C'est à l'époque où je croyais encore ce que me disaient mes parents. Ouais. Mm-hmm. Et on devait tous, dans la famille, au moins tenter un an un instrument de musique.
Ouais.
J'ai fait du piano, j'étais plutôt bon, mais j'avais du mal avec le solfège et toute cette ambiance et les profs et tout ça. Mmh. Et du coup, j'ai lâché. Et mon frère, lui, avait choisi la guitare.
Ouais.
Et c'est finalement avec la guitare que je me suis épanoui, en récupérant la guitare de mon frère.
Paradoxe.
Après que lui ait lâché.
Votre père, qui lui-même avait eu un hit en 1986.
Exactement.
Ah oui, je sais.
Au Sophie.
Au Sophie.
Ouais.
Non, je vous promets, on ne va pas l'écouter.
Merci.
Grâce à Jacques, Jacques est né et votre touche, votre touch Jacques, c'est ça.
Petite boucle.
Petite boucle. À partir de
on
bruit.
Entend le stylo bic.
Qu'est-ce qu'on entend là-dedans?
On reconnaît le tac, tac.
Le clic, le 4 couleurs,
le petit 4 couleurs, voilà. Ouais. On reconnaît ça, ouais. Il me semble que... Ah, ça c'est une machine à écrire.
Ouais.
On entend un petit bout de machine à écrire. On entend une toupie qui tombe sur une balance, une vieille balance en métal. On entend un bout de papier. Et là on entend un synthé.
Un synthé qui arrive, mais ça veut dire que vous vous serviez des objets du quotidien pour créer des sons? Faire teinter des verres, vibrer des élastiques, jouer avec une cloche de vache ou encore une râpe à fromage. Le rayon quincaillerie du BHV, c'était nirvana pour vous, j'imagine.
Complètement. Ouais. Tous les Emmaüs et autres. Ouais, je me suis bien amusé à faire ça. En fait, à la base, l'idée, c'était de juste utiliser tout ce qui me passe sous la main sans faire de discrimination positive envers les instruments de musique.
Mm-hmm.
De me dire, tout finalement est potentiellement un instrument de musique. Mm-hmm. Comme je disais, toute personne est potentiellement un artiste. Donc, tout objet est potentiellement un instrument. Donc un peu tout ce qui me passait sous la main. Et je me suis bien bien amusé parce qu'en fait c'est hyper marrant et surtout c'est très inclusif. C'est-à-dire que n'importe qui du coup peut arriver et dire tiens, fais de la musique avec cette souris d'ordinateur, avec mes clés, avec... à tel point que finalement, bah, je me retrouvais avec des piles d'objets avant mes concerts que les gens me ramenaient. Et je savais pas quoi en faire.
Et que vous utilisiez dans un ordre tout à fait aléatoire.
Ah ouais, c'était complètement...
De l'impro, quoi.
Oui, je savais pas du tout comment ça allait sonner. Et en fait, à la base, quand je faisais ça en studio, c'était parce que ça m'amusait, que j'avais trouvé, je faisais des découvertes de sons. Mmh. Et là, ça s'est transformé en un espèce de concept, ce qui me dépassait, et ouais, que j'étais tenu de faire de la musique avec les objets que les gens me ramenaient, sans que ce soit pour la raison première.
C'est-à-dire, vous aviez des copains qui venaient dîner, avec en apportant une bouteille, il fallait faire...
Ah mais ça allait beaucoup plus loin, c'était même, je recevais plein de mails de marques qui sortaient des nouveaux produits et qui me proposaient tout, plein d'argent pour que je fasse de la musique avec.
Et vous n'avez pas suivi cette voie-là. Mais on le comprend, votre approche est résolument originale et vous poussez le curseur jusqu'à la diffusion de vos morceaux à l'image du single « Vous » que vous avez vendu en NFT, c'est-à-dire en le découpant seconde par seconde. Est-ce que vous pouvez expliquer cette méthode à des gens comme moi qui collectionnent plus les magnats les magnets de frigo perdus que les NFT?
Bah, en gros, le NFT est donc un espèce de, disons, de contrat en ligne qui permet donc de stipuler quelque chose et de
vendre virtuellement.
Virtuellement.
Comme on peut vendre les morceaux d'une toile.
C'est ça. Ouais. Et donc il y a plein de gens qui s'amusent avec ça et qui vendent des images, toutes sortes d'art. Et moi, en fait, je me suis amusé à faire plutôt un espèce de contrat. Mmh. On a détourné un petit peu l'utilisation habituelle du NFT. On a découpé le morceau en secondes. On l'a vendu à autant de personnes qui avaient de secondes.
Ouais.
Et en fait, maintenant, les gens possèdent officiellement donc, les droits master du morceau.
D'accord.
Moi, j'ai gardé une partie des droits qui correspond à l'écriture du morceau.
Ouais.
Et les gens possèdent l'enregistrement. Donc, ils ont chacun reçu un mail avec leur seconde,
ouais,
alors que le morceau n'était pas encore sorti. Et ben maintenant, c'est sorti. Donc, si, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est que les gens, ils peuvent aller sur les plateformes écouter le morceau.
Ouais.
Et puis, en fait, ils vont se payer eux-mêmes. Et c'est ça qui m'amusait, c'était encore une fois cette recherche de vortex et de boucle.
Le vortex, toujours le vortex.
Le vortex n'est jamais très loin.
Et vous dites d'ailleurs que l'époque appelle à l'expérimentation de fonctionnements nouveaux. Ça veut dire que vous êtes très très connecté à tous ces nouveaux types de développement?
Pas plus que ça en vrai. Il y a des gens bien plus connectés que moi. Mmh. Mais par contre, je suis conscient, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit maintenant, si on le déroule encore plusieurs années, plusieurs centaines d'années, j'ai l'impression qu'il ne pourra pas durer, pour tout un tas de raisons qui dépassent complètement le spectre de cette émission. Mais j'ai l'impression que dans ces cas-là, expérimenter, c'est même pas prendre un risque, c'est juste se positionner comme la chose la plus évidente à faire. Donc on expérimente plein de trucs, éventuellement il y a une des expérimentations qui va créer un nouveau modèle. Et le NFT, je trouvais ça intéressant quand même.
Je reviens juste un instant sur cette histoire de vortex, parce que j'avais été très très emballé par cette histoire que nous avions tournée ensemble. Le vortex, c'est un sujet que vous avez étudié avec Alexandre Guin en créant le Centre National de Recherche du Vortex, soit un programme de recherche conçu pour étudier les phénomènes de vortex tels que balayer des balayettes, défenestrer des fenêtres ou haut-parler à des haut-parleurs. Ça fait quoi de haut-parler à des haut-parleurs?
Quand on haut-parle un haut-parleur, en fait, c'est lorsqu'on prend, on avait pris des haut-parleurs qu'il y a sur les téléphones.
Mmh.
Et en fait, on s'était appelé,
ouais,
et puis on avait fait se parler les téléphones l'un l'autre, ouais, comme ça. Et ça fait ce qu'on appelle un larsen, et qui est une dématérialisation les plus pop du vortex, finalement. Mm-hmm. Le larsen, tout le monde connaît
bien sûr.
Ce phénomène. Donc moi, c'était une analyse, parce que je trouvais que à d'autres niveaux, à un niveau plus dans les sciences humaines, quand j'analyse un peu aussi parfois ce qui se passe dans une pièce, des fois j'ai l'impression que voilà, il y a une personne qui attend quelqu'un d'autre, et cette personne, elle attend quelqu'un d'autre, qui attend la première personne, et en fait, tout le monde s'attend. Donc ça crée comme ça une espèce de larsen d'attente.
Mmh.
Et c'est valable sur l'attente, c'est valable aussi parfois sur des circulations de mouvements d'argent,
ouais,
où c'est un peu ce qui est la base de la corruption, quand il y a de l'argent qui arrive et qui vient payer la personne, qui va décider que l'argent re-arrive, qui va repayer la personne, qui va décider, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est des phénomènes qui sont omniprésents à tous les niveaux du vivant,
ouais,
et qui sont étonnamment peu connus.
Jacques Auberger, bon, okay, certes, nous sommes tous des artistes, mais vous êtes décidément un artiste pas tout à fait comme les autres. Dans la suite de Pop Pop Pop, nous allons parler avec Charline Roux et Alice Moitié de votre nouvel album. Ça sera juste après un morceau symbolique pour Alice Moitié, c'est Mid et sa reprise de son hit The Sun, ici avec Johnny, J-A-W-H-N-Y.
Yeah.
C'est sur ce son de Me des Joni, The Sun, que viennent de faire leur entrée Charline Roux et Alice Moitié.
Bonjour.
Bonjour à vous deux. Bonjour. Charline, vous avez écouté The Sun en Picardie, sans doute parce qu'il est plus facile de l'écouter là-bas que de le voir. Et je parlais d'un morceau symbolique pour Alice Moitié.
Bah oui, parce qu'Alice, on a pu voir Mead sur la scène des Victoires de la Musique la semaine dernière dans une jolie maison pleine de meupettes et je crois que vous n'y êtes pas étrangère.
Oui, tout à fait. C'est moi qui ai... créer cette scénographie, c'était très très fun à faire. Et surtout, on se disait, comme on n'avait pas beaucoup de budget, on ne pouvait pas rêver très grand. Mais avec quelques bouts de ficelle et des petites commandes Amazon de puppets libres de droit, on a réussi à faire un truc pas mal. Et surtout, on avait un peu envie d'intimité, parce que les Victoires, c'est très très gros la scène. Ouais. Et en faisant une petite maison, on pouvait resserrer, on forçait un peu les caméras à se rapprocher de lui. Parce qu'il a quand même une sacrée... Ouais. Tête très fun. Je pense qu'il fallait pas le louper.
Alors ça, c'était pour votre collaboration avec Mead. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Jacques? Comment s'est fait la connexion entre vous?
On fait partie un peu de la même nébuleuse, même génération, je sais pas.
Génération maintenant.
On n'a pas réussi à se louper, mais je me souviens pas non plus de la première fois. C'est comme si on se connaissait toujours, quoi.
Ça fait v'là le temps, en vrai. Hein.
Ouais, ça doit faire 10 ans. Hein.
Bah, je crois.
Ah, quand même.
Mais par hasard.
Ouais.
Alors Alice, après avoir shooté PNL, ASAP Rocky, Justice ou encore Miley Cyrus en bikini Dior et talons strassés, vous signez la pochette de l'album de Jacques, L'importance du vide. Vous n'avez pas eu envie de le faire poser en bikini Dior et talons strassés comme Miley?
Bah, il était quand même à poil et à poil hein, sur la pochette. Hein.
C'est vrai, double poil.
Ah, y a beaucoup de poils, oui. Enfin, ouais. Les poils couvrent tout.
Il faut la décrire cette pochette, vous êtes de face, torse nu, j'ai l'impression, mais en tout cas sous une cascade de cheveux très très impressionnante.
Ouais, il y a une vraiment beaucoup de cheveux. Ouais. Ouais.
Elle raconte quoi cette pochette?
J'avais envie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, donc j'ai cette coiffure depuis longtemps, depuis même avant de faire de la musique, de sortir de la musique, et j'ai tendance à oublier que j'ai cette coiffure. Parce que moi, elle est sur ma
coiffure,
tête.
Rappelons-le quand même. Vous avez rasé le centre du crâne. Oui, cette fausse calvitie, en fait.
Voilà. Et j'adore le sentiment que crée cette coiffure, cette espèce de malaise que ça crée quand je croise des gens. Et donc, à chaque fois que je réfléchissais à une pochette d'album, je m'imaginais dans plein de situations et tout, mais j'avais tendance à oublier qu'en fait, ma coiffure allait complètement être, quoi qu'il arrive, le sujet central de la pochette. Donc, je me suis dit, tant qu'à ce que ce le soit, autant en faire vraiment le sujet central. Et donc,
coiffure et vêtements, là, presque.
J'ai laissé pousser mes cheveux pendant 400 ans et je suis revenu.
Et Alice, vous n'avez pas pensé à faire poser Jacques les fesses à l'air comme vous l'avez fait avec Miley?
Avec Mead. Alors, okay, pour la petite histoire aussi, Mead, parce que c'était drôle sur cette croisière, c'était marrant parce qu'en plus personne voyait qu'il était nu.
Oui, parce que la pochette est faite sur un bateau de croisière.
Oui, sur un bateau de croisière. Dos, oui. Mais surtout comme il était loin et qu'il fallait qu'on le remarque, la seule solution c'était de le mettre d'une seule couleur et la seule couleur auquel j'ai pensé c'est la peau. Mais c'est vrai que c'était un moment de grâce, c'était pas censé être une pochette et finalement c'en est devenu une.
D'ailleurs, quand on a fait la séance photo ensemble, moi, je pensais pas forcément que ça allait devenir la pochette de l'album.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est au moment où j'ai commencé à penser à une cover, je me suis dit, mais je vais jamais réussir à faire mieux, en fait. Enfin, ça va me prendre beaucoup trop de temps.
Elle est magnifique.
Elle était très bien.
Ouais. Du coup, on a dû refaire des photos de presse.
Ouais. Parce qu'en fait, moi, je voulais pas qu'on sorte. À partir du moment où ça devient la pochette de l'album, que c'est iconique, je veux pas du tout que circulent les autres photos.
Ouais,
à ce coup, ça fait genre, regardez, c'était comme ça.
On a décliné toute une gamme.
Voilà. C'est ça. Et donc, gros débat avec mon manager, parce que ça aurait été aussi super de pouvoir décliner ça, pour des raisons un peu marketing. Mais là, je me suis dit non. Donc tout poubelle et on a refait des photos et d'ailleurs je suis super content, elles sont encore mieux que si on avait.
Et donc Jacques, l'album s'appelle L'importance du vide, alors pourquoi vous n'en avez laissé aucun entre les lettres?
C'est vrai qu'il est dense l'album. Hein.
Ah oui.
Mais le titre, en plus, il n'y a pas d'espace, l'importance du vide dans un seul...
Oui, c'est l'importance du vide tout collé.
C'était pour incarner, oui c'est vrai, j'ai pas mis les espaces. C'était pour incarner l'importance du vide, justement. Mmh. De dire, bah voilà, c'est compliqué à lire, ça paraît dense. Bah, c'est à ça que sert le vide. Et je, voilà, après, on peut extrapoler.
Moi, je trouve que c'est une excellente blague.
Oui, c'est une excellente blague, mais c'est quoi le vide?
Bah, le vide, en fait, pour moi, c'est un peu l'incarnation parfaite de ce sur quoi on porte pas assez notre attention, mmh. et qui est pourtant essentiel. Mmh. Donc, avec mon premier disque, Tout est magnifique, j'ai attiré l'attention sur les objets, sur les choses qui sont pas si belles, qu'on met pas en avant. Finalement, c'est un peu le même propos, mais mmh. poussé à l'extrême, de dire, bah, regardez, en fait, c'est le vide qui est, mmh. qu'il faut regarder maintenant. Et c'est vrai que, bah, pour moi, dans la vie, il y a le plein et le vide. C'est un peu une vision taoïste, il me semble, de la vie. Et c'est vrai que j'ai l'impression que, bah, aujourd'hui, dans le monde, on est tout le temps en train de regarder l'aspect plein, de vouloir remplir le silence, de vouloir avoir peur de ce vide. Mmh. Et voilà, et c'est pour ça que je veux faire la promotion de ce dont on a peur.
Et vous dites, je n'aurais sans doute pas fait cet album sans le confinement. En quoi est-ce que le lockdown a changé les choses pour vous? Est-ce que vous êtes justement laissé happer par cette forme de vide?
Oui, complètement. À titre personnel, dans mes journées, ça n'a pas changé grand-chose parce que ça faisait déjà 2 ans que j'avais déménagé au Maroc et qu'en fait, je vivais mes journées l'une après l'autre à faire ce que je voulais. Mais par contre, le fait de savoir que le monde entier, pour la première fois, tout le monde avait son attention attirée vers quelque chose. Et du coup, ça m'a mis d'un seul coup, j'étais calme, j'étais serein. Et là, je me suis mis à vraiment bosser. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, en fait. Le monde ne va pas s'arrêter deux fois.
Et cette maison isolée de l'Atlas marocain, c'est là que l'album a entièrement mûri?
Ouais, quasiment. Après, j'ai fait 3 jours de studio à Paris,
ouais.
histoire de compléter un peu le son, parce que je ne suis pas non plus super fort pour enregistrer bien et tout. Mais sinon, ouais, globalement, c'est là-bas, et puis beaucoup dans ma tête. J'avais une belle baraque, hein. Je me suis mis bien.
J'espère bien.
Mais tu n'es pas dans une bergerie perdue au milieu de la montagne.
Non, c'est ça, parce que quand on imagine montagne marocaine, on imagine quelque chose de très rude, et je ne voudrais pas faire...
Fausse impression.
En fait, c'était complètement...
C'est un drôle de zigoto, hein, je disais en ouverture d'émission, que ce Jacques.
Qu'il est particulier. Mais après, par exemple, pour les photos de presse, c'est vrai qu'à un moment, il voulait qu'il y ait une auréole derrière lui qui fasse la taille de son crâne.
Mais elle existe, cette photo.
Tout à fait.
Elle existe.
Mais c'était très dur de le comprendre parce qu'il parle bizarre quand il essaie d'expliquer ce qu'il veut. Donc
Surtout, la première photo que je t'ai envoyée, c'était avec l'ampoule de mes toilettes au-dessus de ma tête.
Ah oui, son image ref. Il avait juste mis une ampoule au-dessus de sa tête, mais on voyait toute l'ampoule.
Ça faisait genre, j'ai une idée.
C'est ça que je veux, mais enceint.
Cette photo avec le halo qui est quasiment christique, effectivement, où on voit que vous avec la découpe de lumière. Il y en a une autre aussi qui me semble avoir vue avec des colombes, j'imagine, une posée sur votre tête et une qui s'envole.
J'avais oublié.
Comment est-ce qu'elles naissent, ces idées de photos? Est-ce que c'est collaboration ou pure projection d'Alice sur Jacques?
Franchement, c'est collaboration. C'est collaboration. Mais la plupart des trucs, par exemple, l'ampoule. Bon, alors, il m'a expliqué ce qu'il voulait avec une photo qui ne ressemblait pas du tout à ça. Mais après, essai, j'ai compris ce qu'il voulait. Donc ça vient de lui. Et après, je m'exécute, je suis une exécutante. Une exécutiante.
L'importance du vide, c'est le titre du 4e album de Jacques qui est disponible et dont la pochette est l'œuvre d'Alice Moitié qui nous parle, qui est avec nous en studio en ce moment. C'est un album évidemment recommandé par Pop Pop Pop. On va continuer à en parler dans quelques instants, mais pour l'instant, je vois qu'il est 16h30 et ici, c'est l'heure des Pop News. Allez.
Une nouvelle adaptation de Stephen King au ciné et une occasion de se poser une question, non pas où est Charlie, mais qui est Charlie?
Je sens un truc bizarre. Il se passe quelque chose.
Tu te souviens de ce qu'on t'a renseigné?
Bureau, crayon, papier, chaussures.
C'est trop bizarre. Tout va bien, Charlie?
Ça a recommencé.
Qu'est-ce qui a recommencé?
Le papier.
Si tu perds le contrôle, qu'est-ce que tu dois faire?
Ça n'a pas marché.
C'est pas un robot, Andy, c'est une enfant. Qui a des émotions d'enfant complètement imprévisibles.
Charlie?
Ça doit rester enfoui, elle doit le réprimer.
Notre devoir, c'est de la préparer.
Notre devoir, c'est de la protéger.
La petite Charlie dispose d'une faculté extraordinaire de pyrokinésie et elle est à ce titre poursuivie par une mystérieuse agence qui aimerait profiter de son super pouvoir qui donne chaud. Le film s'appelle Firestarter, c'est avec Zac Efron dans le rôle du père de l'enfant et ce sera le 1er juin sur les écrans.
Il vient de Chicago et s'appelle Tolliver. Et selon sa bio officielle, il est le fils scintillant et fou de paillettes d'un pasteur obsédé par les cow-boys et d'une chanteuse de chorale gospel. Il fait de la musique tendance groovy et il était cette semaine en live sur le plateau du Late Show de James Corden sur la chaîne américaine CBS. Et nous, quand on aime, on partage. À retrouver sur le hippie de Tolliver Daddyland pour guincher avec style tout l'hiver. Tout l'hiver, Tolliver.
C'est excellent. Dans la série The Dropout, inspirée d'une histoire vraie, Amanda Seyfried et Elizabeth Holmes, fondatrice de la société Theranos, dont l'activité est centrée sur une méthode d'analyse sanguine entièrement automatisée, prétendument rapide et peu coûteuse. Une méthode dont la fondatrice est très fière. Trop fière, peut-être.
C'est encore très loin de marcher.
Qu'est-ce qu'on va montrer à la démo ?
On va leur expliquer qu'on n'a pas de prototype qui fonctionne. On est d'accord.
Notre deuxième levée de fonds nous a rapporté 165 millions.
Récolte le pognon !
Je sais ce que t'as fait à la démonstration.
C'était une première étape très prometteuse.
Tu ne le dis à personne d'autre. Je suis là pour te protéger.
C'est une étape, une première étape très prometteuse. Ce n'est pas que mon travail, c'est mon identité. Quiconque doute de mon entreprise, doute de moi.
C'est l'histoire du scandale Theranos dont les dirigeants ont été inculpés pour fraude massive et The Dropout, ce sera le 20 avril sur Disney+.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Oui, merci Charline.
Charlie ?
Oui, je suis la voix française de Amanda Seyfried.
Ah non,
bravo,
ah,
bravo, okay, bravo. Merci Charline. Nous sommes en compagnie de Jacques Auberger et d'Alice Moitié pour parler du quatrième album de Jacques. Et Jacques a dit, reprenons l'interview, donc nous exécutons. Jacques, je sais que généralement vous voulez créer une musique qui fait danser à la fois les gens normaux et les gens étranges. Où me rangez-vous ? Et qui va plus danser sur cet album, selon vous,
les gens normaux ? Vous êtes plutôt normal, à vrai dire.
En danse ? Vous l'avez jamais vu danser ?
En règle générale, je pense que vous avez... Ouais, je pense que... Et c'est pour ça aussi que vous travaillez à France Inter, etc. Mmh. C'est que vous êtes capable de représenter et de connecter avec une majorité de gens.
D'accord. Et Alice, par exemple, serait plutôt dans le registre...
Un peu moins normal.
Ça sent le dossier.
Un tout petit peu moins normal. Non, mais je pense qu'on a tous une partie de normal et de différent. Et si je devais réécrire aujourd'hui, je dirais plutôt j'ai envie de faire de la musique qui parle à tous ces aspects-là qu'on a en chacun de nous. Et donc, effectivement, faire de la musique qui soit à la fois efficace, mais à la fois un peu fascinante et mystérieuse.
Et par exemple, vous, Alice, comment dansez-vous sur cet album ?
En vrai, par exemple, sur Ça se voit, je pense qu'on peut faire un WAP. Tu vois ou pas quand il y a le beat tout 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 tout. J'aime bien. J'ai écouté là dans la voiture et sur le volant, je l'ai vraiment fait avec le poing. C'était super.
Charline, pouvez-vous me traduire ? On peut faire un WAP ?
Je peux pas le dire parce que c'est wet ass pussy.
C'est la
danse de Cardi B.
Ah oui, d'accord. Ok.
Ouais.
C'est très pop.
Ouais.
Oui, c'est très pop.
Et pas que pop. Mais enfin bon, c'est un détail. Allez voir le clip si vous voulez vous renseigner.
On va le traduire. Il y a des enfants qui écoutent. Ouais.
Jacques, vous avez récemment posté sur Instagram « J'ai taffé de fou pour accomplir mes visions sonores. Et là, le fait de voir que ça fait kiffer des gens dans leur vie, ça donne envie de faire masse d'albums. J'ai enfin compris Jul et Frank Zappa. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de leurs œuvres respectives et en quoi est-ce qu'elles ont ouvert les chakras ?
Jul et Frank Zappa ont cet unique point commun, je pense, qui est qu'ils ont une...
L'accent marseillais, non.
ils ont une discographie super vaste. Ils ont une densité, ils sortent vraiment énormément d'albums. Et je disais ça, même si moi j'ai sorti des disques jusqu'à maintenant, c'est vraiment mon premier vrai album studio. Et en fait, j'ai réalisé que maintenant, je me sentais capable d'en faire. En fait, je pense que j'ai envie d'en faire plein. En fait, j'ai envie de. Et quand je vois Jul qui sort un album tous les 6 mois, ouais. Je me dis, mais c'est hyper compliqué, comment il fait et tout. Et en fait, là, je me dis, mais en fait, non, c'est possible. Frank Zappa, lui, avait décidé d'enregistrer tous ses lives.
Ouais.
Et c'est une démarche que j'ai déjà faite. Moi, j'avais sorti un album de 125 morceaux.
Il a même sorti un coffret de solos de guitare, uniquement des solos de guitare.
C'est excellent.
Ouais, non, c'est un grand, grand malade.
Voilà.
Alice, vous avez un univers résolument pop, vous avez un goût pour les couleurs chatoyantes, comme dit Charline, et le don de capter les situations cocasses. C'est un univers qui vient du monde de la BD, dites-vous. À quel personnage de BD pourrait vous faire penser, Jacques ?
Ah, le kid dans les Simpsons, Ralph dans les Simpsons. Tu vois ou pas?
Je vois.
Ouais, je pense que ça lui irait bien.
Pourquoi?
Vous pouvez développer.
Bon, il est un peu dans la lune et en même temps, quand il y a un papillon qui se pose sur son doigt, il s'arrête pour le remarquer. Mm-hmm. Mais je l'aime bien, je le trouve attendrissant. Après, j'avais pas beaucoup de temps là, j'ai pas brainstormé.
Bien sûr, ouais.
Mais Ralph, ok, il est un... la partie touchante de Ralph, pas la partie débile, léger de Ralph.
Et sur votre album, Jacques, un titre que vous décrivez comme une comptine existentialiste.
Je vois des gens qui merdent, je vois des gens qui changent, je vois des gentils et des méchants qui se mélangent. Quand je demande pourquoi,
pourquoi c'est comme ça, une chanson qui a failli ne pas figurer sur l'album. Pourquoi et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Elle est pas mal quand même, non?
Bah, elle est super. Elle est très obsédante.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, je me suis dit... C'est déjà lourd pour moi d'arriver avec un album aussi pop. Et en fait, j'avais pas envie qu'on me prête une intention commerciale.
Pourquoi est-ce que c'est lourd?
Comment?
Pourquoi est-ce que c'est lourd?
Je sais pas, j'avais peur que... C'est peut-être des petites peurs où je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que les gens vont penser de ça? C'est-à-dire que je fais un pas en avant avec une certaine musique.
Vous ne vous en préoccupez pas, vous êtes un artiste.
Mais tout à fait, et d'ailleurs la plupart du temps, c'est comme ça.
Oui.
Mais à certains moments, j'ai des moments de faiblesse où mon cerveau commence à dire « Attends, il faut que tu penses à ça et à ça. » Et là, et puis aussi, il y a un truc, c'est que là, vous écoutez la version finie.
Mais la version finie,
je vous assure qu'il ne fallait pas la sortir.
Mais de manière générale, quand vous concevez un album, vous jetez beaucoup?
Oui. Oui, oui.
125 morceaux. Ouais.
Non, mais oui, voilà, c'est parce que j'ai envie de... C'est la crème de la crème, j'ai envie de sortir... Ouais. Je fais beaucoup aussi, c'est aussi ça.
Mais bah, par exemple, le fait qu'avec votre musique bizarre, longtemps expérimentale, vous soyez rentré en playlist sur Inter, c'est une consécration pour vous ou au contraire quelque chose qui peut vous inquiéter?
Bon, moi, je suis content de toutes sortes de reconnaissances de partout. Après, dans ma tête, pour être complètement honnête, moi, je vois plutôt le monde entier. Je me dis, waouh, j'ai envie de parcourir le monde, de faire voyager ma musique. Et c'est vrai que rentrer en radio dans le pays dans lequel je suis né, ça constitue une étape. Mais je vois pas comme une finalité. Je me dis, waouh, c'est bon, trop bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec la musique expérimentale que je faisais, j'ai toujours été quand même étonné que des gens comme vous résonnent avec... J'ai toujours été identifié à d'autres chanteurs, genre Flavien Berger ou Fishback au début. Et alors que j'avais sorti un disque où je ne chantais pas. Donc je ne comprenais pas comment ils savent que je vais chanter.
Pour lancer le titre La vie de tous les jours, vous avez donné la possibilité aux internautes de regarder 24 heures de votre vie à vous sur YouTube.
Ouais.
Et puis pour une autre vidéo, toujours pour le même titre, vous avez demandé la participation des gens qui vous suivent. Vous leur avez demandé de vous envoyer un bout de leur vie en format story. Alors deux questions, Alice a-t-elle participé et est-ce qu'elle était très inspirante la vie des autres, Jacques?
Je crois que t'as pas participé, si.
J'ai pas vu passer.
Ah
pas bien. J'ai pas vu passer un casting. Je l'aurais fait avec grand joie, tu vois.
La vie des autres, oui, c'était pas la question de juger la vie des autres.
Non, bien sûr.
C'était plutôt de se dire, en fait, peu importe ce qu'on va recevoir, on va le monter. C'est quand même aussi où je me rends compte un peu quel est mon public. Et c'est quand même, des fois, je me dis, il va y avoir de tout, ça va être super, mais en fait, pas du tout. Les gens qui me suivent me ressemblent. C'est quand même une réalité, donc je me le prends en pleine face.
C'est inquiétant.
Ouais. C'est qu'il y a encore du boulot. Et j'ai trouvé le projet, je trouvais que c'était cool, parce qu'en fait, c'était très simple. Comme le morceau La vie de tous les jours fait une espèce d'apologie au moment naze.
Ouais.
Et les gens, ils avaient des facilités à trouver dans leur vie des moments nazes.
Ouais, ces petits moments de rien, ouais.
C'est ça. Mais en fait, il y a des gens, ils m'envoyaient des trucs qui n'étaient pas assez nazes. Et je devais leur dire, mais envoie plus naze, ça colle pas.
Alice, on en parlait, vous avez entre autres tiré le portrait de Jacques, de Mead, d'Orelsan, de Panayotis, Pasco. Quelle qualité faut-il pour être une égérie Alice Moitié?
En vrai, être sympa, je pense que juste, je rigole avec quelqu'un et je me dis, il est sympa. Ça part, je suis quand même assez ouverte d'esprit. J'ai quand même pris en photo beaucoup, beaucoup de gens aussi. Ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il y a aussi des groupes qui n'ont pas marché et que j'ai plus vu. Mais je sais pas, je me dis les gens sont sympas, surtout les musiciens. C'est un peu un hasard si je fais des photos de musiciens. Mais les musiciens, c'est quand même des artistes et c'est des gens passionnés. Je pense que c'est pour ça que j'adore prendre en photo des musiciens, alors qu'évidemment, c'est pas comme des mannequins, je fais pas ce que je veux.
Ouais.
Je trouve ça assez agréable.
Mais est-ce que vous avez besoin d'adhérer au projet musical?
Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Je peux très bien ne pas du tout écouter la musique de la personne ou pas du tout aimer. Mais s'il est sympa ou que juste il a une bonne ambiance, il a quelque chose d'intéressant à raconter, je trouve ça toujours assez assez fascinant. Et puis c'est des gens, c'est des artistes, donc c'est toujours curieux de rencontrer des artistes qui ont des points de vue différents. Mmh. Mais ça reste des gens qui travaillent. En l'occurrence, j'adore l'album de Jacques. Je dis pas ça parce que t'es à côté, mais il y a plein d'autres, il y a plein d'autres artistes que j'ai pris en photo et j'écoute pas, mais je respecte parce que c'est des artistes justement.
Mais ils vous demandent pas tous de louer des colombes.
Non, pas du tout.
C'est que Jacques.
L'importance du vide, Jacques, c'est le quatrième album. Il est disponible depuis quelques jours et vous l'aurez compris, recommandé, d'autant plus qu'il est illustré par cette magnifique photo d'Alice Moitier. Alice, Jacques, dans la suite de Pop Pop Pop, nous allons parler de Breakbot, de la série Mylène Farmer, l'ultime création, oui, du film L'Apsis et d'une curiosité japonaise. Tout ça, ce sera après un autre morceau de Jacques, extrait du nouvel album. C'est donc la fameuse vie de tous les jours.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux, dans la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos, c'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie. Il n'y a rien de plus vital que le vide de tous les jours.
Un morceau de Jacques à écouter dans la vie de tous les jours. Donc, vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Alors, ce cri, c'est le cri de Wilhelm, un cri célèbre dans la pop culture, et c'est justement ce qui vous évoque la pop culture, Jacques Auberger. Oui. Pourquoi donc?
Bah, c'est le son, je pense, le plus pop. Ouais. Quand vous m'avez demandé de trouver le son, le pop selon moi, c'est, en fait, c'est un son qui a été à la base une blague de bruiteur. Ouais. C'est un son de, dans les films, lorsque quelqu'un, il me semble que c'est quelqu'un qui tombe d'un bateau, à l'origine, dans un film des années 60.
Les aventures du capitaine Wyatt.
Ah voilà, j'avais pas la ref exacte. Et en fait, ce son est tellement naze, je pense, qu'il y a quelque chose de magique, que d'autres bruiteurs se sont amusés à le placer dans d'autres films. Ouais. Et il me semble que c'est dans une cinquantaine partout de films. Ouais, c'est vraiment dingue. Il est toujours caché, et encore aujourd'hui, parfois, il me dit « Ah, le cri de Wilhelm !» Ils l'ont mis. Je sais pas s'il est dans Dune, mais
on va le chercher dans Dune. Et pour vous, Alice Moitier, la pop culture, c'est ça?
Ah.
Shrek. Oh,
c'est quoi
Fairy Tale, cet extrait de la BO de Shrek.
Je l'ai mis en sonnerie de portable.
Mais oui, c'est ça, acheté pour 99 centimes oui. Pour le mettre en sonnerie.
C'est incroyable, ça a vraiment changé ma vie pour le meilleur, mais du coup je réponds plus au téléphone parce que genre je vibe et ça me met dans un état mental très très agréable.
Ah oui.
C'est la meilleure sonnerie de portable qui existe. Je vous laisse vraiment l'acheter, c'est super.
On ne peut plus vous joindre, quoi.
Non. Mais parce que vous êtes fan de Shrek à la base.
J'adore Shrek, je trouve ça très drôle. Et puis surtout, c'est tellement moche et en même temps excellent, Shrek. J'adore. Mais en effet, c'est si populaire dans le monde entier.
Ouais.
Et de génération en génération, ça continue d'être très culte. Et cette musique me met d'excellente humeur. Et puis surtout, Shrek, c'est devenu très populaire parce que justement, ça rassemblait énormément de choses de la pop culture.
Eh bien, restons dans cette pop culture, puisque c'est l'heure de votre pop list à tous les deux. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Alice, je commence par vous. Votre livre du moment, c'est Nuées d'oiseaux blancs de Kawabata. C'est très beau, très février, méga classe. C'est un livre sensuel et délicat. Et c'est donc Charline Roux qui nous le résume.
Elle dit qu'elle voit pas le rapport, pour le coup. Enfin bon. Le héros est un trentenaire, fils unique, ayant perdu ses parents, célibataire, jouissant d'une fortune confortable. Il ne sait pas bien quelle direction sa vie est en train de prendre. De façon inattendue, il se retrouvera confronté à un dangereux héritage spirituel, sentimental et amoureux.
Alice, c'est très beau, très février, méga classe.
Oui, tout à fait.
C'est votre définition du livre.
Oui, c'est ça. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps, mais je l'ai lu par hasard parce qu'il traînait dans une maison de campagne. Mmh. Je ne connaissais pas du tout Kawabata. Et c'est très délicat. Et...
Très février, c'est ça
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très lent, les actions sont lentes, mais c'est évidemment très bien écrit de manière très poétique. Mmh. C'est un peu comme, vous voyez, Proust, il vous fait un peu ressentir les sensations que vous n'avez jamais eues. Mmh. Et là, c'est un peu pareil, sauf que vous êtes un peu plus spectateur de ce qui se passe, un peu avec un peu de distance. Mmh. Et après avoir lu celui-ci, j'en ai acheté 2-3 autres de Kawabata, parce que ça me mettait dans un état d'esprit tellement apaisé. Mmh. Et voilà, je le conseille par ces temps difficiles.
Nuées d'oiseaux blancs de Kawabata. Jacques, pour la série, vous avez opté pour Mylène Farmer, l'ultime création, ce qui m'a permis, Charline, de découvrir que Mylène Farmer était aussi une série.
Une série documentaire en 3 épisodes qui dévoile le processus créatif et les coulisses des concerts de 2019 à Paris, la Défense Arena, un voyage immersif inédit, nous dit-on.
Nous avons travaillé sans relâche. L'envie de surprendre, de dynamiter les codes établis. Nous avons partagé ensemble tellement d'aventures. Nous avons partagé des moments de grande complicité. De vraie amitié. Je suis faite de mes rêves.
C'est dément.
De mes désirs. Et de cette puissance absolue. D'aimer. Et d'être aimé.
Mylène Farmer, l'ultime création, la mini-série choisie par Jacques Auberger.
Elle est trop forte, Mylène.
C'est clair.
Je suis fan. C'est quand même dingue à cet âge-là de continuer là, de faire. Elle joue encore là. C'était un mensonge l'ultime création. En fait, il y a encore une ultime création.
C'est comme les adieux musicaux des compagnons de la chanson. Ça a duré 20 ans, vous savez.
Moi, je savais pas, on m'avait pas dit qu'elle retournerait encore. Et c'est magique. Quoi dire? Oui, elle a cette capacité à superviser tout, du costume à la danse.
Ça vous plaît?
Ça me plaît, ouais.
À la voix off de la série?
Jusqu'à la voix off. Et en fait, je me rêve un peu, moi, en Mylène, c'est-à-dire cette capacité à remplir un stade de France sans faire de promo, des choses comme ça.
Vous voyez sur la scène du stade de France?
Ouais, pas que, mais complètement, ouais.
Avec le petit stylo à quatre couleurs.
Je pense que c'est un bon... En fait, le fait qu'il y ait tellement de monde et que ce soit tellement immense, en fait, les gens deviennent aussi le spectacle.
Ouais.
Et le fait d'être tous là, un peu comme les pingouins, là, qui se donnent tous rendez-vous une fois par an, là, je sais pas où, là... C'est un peu même ça. Allez, festival de Mylène, allez, on y va, quoi.
Festival de Cannes, vous voulez
dire? Ouais.
Okay. Jacques Auberger au Stade de France, ce sera donc pour mai 2023.
Ouais,
on peut d'ores et déjà annoncer l'annonce.
La série dans la foulée 2024.
Et la série, donc, évidemment, autour du Making of. Jacques, toujours, votre reco de film, c'est L'Abscisse de Noah Hutton. C'est un film de science-fiction sorti en 2020 et je ne l'ai pas vu. Alors, Charline, ça parle de quoi?
Ray est livreur et lutte pour sa survie et celle de son frère malade. Pour subvenir à leurs besoins, Ray accepte un poste de travail dans un nouveau domaine étrange.
They have chosen to abuse us. To leave us behind and out here injured while their CEOs and shareholders get rich on our backs. They don't care about us. But guess what? They're not out here. Out here, it's just us. And we've got each other. And today, we finally have a way to force them to stop and listen.
L'abscisse de Noah Hutton, la recommandation de Jacques. Mais alors, Jacques, ça n'a pas l'air totalement détendu comme atmosphère. Hein.
Ah ouais, c'est pas un film facile. En fait, c'est un film de science-fiction, mais qui se passe pas dans le futur. Ça se passe dans un monde parallèle dans lequel, en fait, on installe des ordinateurs cubiques et géants dans la nature. Mm-hmm. Mais on sait pas vraiment pourquoi. C'est-à-dire que pendant tout le film, on se dit, mais à quoi ça sert tout ça? Mais on comprend juste que c'est d'une importance cruciale. Mm-hmm. Et donc, ils utilisent des gens, la société qui fait ces ordinateurs utilise des gens, tout comme une société comme Uber, voilà, utilise des livreurs, etc., mm-hmm. pour câbler ces ordinateurs. Et donc, on est encore dans un monde où il n'y a pas de Wi-Fi, il faut le câble. Et donc, le héros passe tout le film à câbler des espèces de cubes géants dans la forêt. Et donc, ça crée une vision qui est assez dégoûtante parce qu'il y a plein de câbles par terre. Et tu te dis, mais à quoi tu sais même pas à quoi ils servent. Donc, tout le film, tu es là en mode, mais à quoi ça sert? Et en fait, ça devient finalement une espèce de commentaire social que j'ai trouvé intéressant. C'est pour ça que je voulais inviter les auditeurs à aller le regarder.
Très bien. C'est de l'abscisse de Noah Hutton. Voilà pour votre prescription. Enfin, Alice, je reviens à vous avec de la musique. Et vous, votre chanson du moment, c'est ça? Searching for the Remedy de Breakbot et Irfan, c'est une chanson qui vous donne un bon flow quand vous marchez dans la rue, dites-vous.
Ouais, bah, vous pouvez imaginer, on marche un peu en deux temps, comme ça, là.
Ouais.
Et quand je marche dans la rue, comme ça, je suis obligée de mettre un peu les épaules en arrière et de faire un peu bouger tout le corps.
Ah, c'est pour ça que vous marchez aussi bizarrement dans la
oui,
rue.
Oui, c'est ça. Je et de faire un peu coucou comme ça.
D'accord.
Avec la main.
D'accord, sans répondre
au
téléphone, évidemment.
Ça me donne envie de dire bonjour au boulanger et tout, oui, sans répondre au téléphone.
Ah non, puisque vous avez la sonnerie de la musique de Shrek de l'autre côté. Bon, très bien. Jacques, vous avez choisi un morceau que je ne connais pas et dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Pouvez-vous le faire pour moi, s'il vous plaît?
Je ne me souviens même plus de ce que j'ai donné.
Japonais.
Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Yasubo.
Yosabi, ça c'est le groupe ou le musicien.
Et le nom, il me semble que c'est en caractère. J'ai galéré à copier-coller les caractères japonais.
Ouais,
pour
bon, je peux m'y risquer, je parle un peu japonais. Ah, ça y est,
non.
Si, c'est ça.
Non.
Mais si, bien sûr.
Non.
Mais si, de Yosabi, donc. Alors, pourquoi donc ce morceau?
Parce que
qui affiche quand même 121 millions de vues sur YouTube.
C'est quand même dingue.
C'est dingue.
En fait, j'écoute les top 50 de différents pays. Et souvent, ils se ressemblent. Mm-hmm. Le top 50 américain ressemble à tous les top 50 des pays du monde. Ouais. Sauf, petite exception, le top 50 japonais. Mm-hmm. Car les Japonais créent leur propre musique et écoutent la musique locale. Et donc, ça donne lieu à des styles de musique qui, d'un point de vue européen, en tout cas de mon petit point de vue de petit français, paraît super étonnant et à la fois un peu fascinant. Il y a un côté où on se sent obligé de rentrer dedans. Je trouvais ça marrant parce que voilà, moi j'ai mon album L'importance du vide.
Ouais.
Et là, c'est un peu le contraire du vide. C'est-à-dire, on va écouter le morceau, je crois, un petit bout.
Ouais, oui, bien sûr, on va écouter le morceau.
Il n'y a pas un moment, t'as pas le choix de. c'est vraiment très, très intense.
Et ben, on écoute un gros bout de ce morceau de Yoasabi.
Sayonara.
en folie.
Johan Sabi. Au réveil, cet envolé était magique. Ah,
c'est fou.
C'est quand même dingue.
Très, très, très bien, ça me plaît beaucoup. Johan Sabi avec ce titre. C'est un titre choisi par Jacques Auberger, qui était notre invité aujourd'hui, avec Alice Moitier, qui a réalisé la magnifique pochette de son 4e album, L'importance du vide. Merci à tous les deux de nous avoir rendu visite.
Merci.
Merci.
C'était un plaisir. Merci Jacques, merci Alice et merci Charline.
Mais
évidemment.
Merci à vous.
Et merci à toute l'équipe de Pop Pop et à Laurent Baudouin qui était à la technique aujourd'hui. Demain, un nouvel épisode de Pop Pop Podcast. Nous parlerons avec Marie Palot de dessins animés japonais et de culture manga, le sujet de son podcast Yama Noté. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop.